Au Mali, outre la population, les leaders religieux et les notabilités du Mali ont également assuré les autorités de transition du pays de leur soutien pour la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation lors de leur présentation de vœux du Nouvel An au colonel Assimi Goïta, comme l'a indiqué la présidence malienne ce jeudi. Se prononçant sur les ANR, les dignitaires ont déclaré avoir pris acte de leurs conclusions et invitent donc le président de transition à une mise en œuvre diligente de ses recommandations qui reflètent la volonté du peuple malien, selon le communiqué. Selon la présidence, les représentants des confessions religieuses du Mali, dont communautés musulmanes, chrétiennes, catholiques et protestantes, des familles fondatrices de Bamako et des forces vives de la nation ont profité de l'occasion pour mettre sur la table les maux qui minent la société malienne et remercient le chef de l'État malien pour son leadership. Le cardinal, donc Monseigneur Jean Zerbo, l'archevêque de Bamako, a estimé qu'actuellement, l'essentiel est la volonté de rassembler. Chaque Malien doit être l'artisan du Mali. Koura, donc le Mali nouveau, a-t-il souligné. Les informations que nous recevons aujourd'hui nous donnent de l'espoir, a affirmé de son côté le shérif, donc Ousmane Madani Aïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali, qui a profité de l'occasion pour inviter le chef de l'État à rester dans sa dynamique d'ouverture et de dialogue. Notre combat, c'est pour l'intérêt des Maliens. Ce combat, nous le mènerons jusqu'au bout, a promis le président de transition Assimi Goïta. Et pour lui, ce combat passe non seulement par la sécurisation du territoire national, mais aussi et surtout par la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Tant que ces combats ne seront pas gagnés, il sera difficile d'arriver à la stabilité tant souhaitée dans le pays, a-t-il indiqué, tout en appelant les Maliens à resserrer les rangs. À noter que l'une des recommandations des ANR est la prolongation de 5 ans de la transition au lieu des 18 mois fixés à partir du 15 septembre 2020 par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le médiateur Goodluck Jonathan a rencontré le président Assimi Goïta mercredi à ce sujet. Les dirigeants de l'organisation sous-régionale doivent se prononcer sur le projet de chronogramme soumis la semaine dernière par les autorités maliennes lors d'un sommet extraordinaire prévu le dimanche 9 janvier à Accra, au Ghana. Le chronogramme soumis par le gouvernement, à la CEDEAO n'est pas un calendrier arrêté, il est discutable, a expliqué mercredi à la presse le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop, en marge de la visite du médiateur de l'organisation sous-régionale. Par contre, cela reflète clairement la volonté du peuple malien. Le fait que la CEDEAO continue de jouer la sourde oreille et continue de ne pas prendre en compte le caractère exceptionnel de la situation sécuritaire au Mali laisse les Maliens et même les populations de l'Afrique de l'Ouest assez perplexes. La crédibilité des instances comme l'ONU, la CEDEAO, etc. est sérieusement remise en question au sein des Maliens. Beaucoup de Maliens se demandent pourquoi la CEDEAO ne prend pas en compte la vie de la population malienne et pourquoi joue-t-il au même jeu de sanctions que les Occidentaux et surtout que les États-Unis. Des régimes de sanctions qui ne mènent nulle part et qui mettent simplement des bâtons dans les roues d'un pays tiers, ce qui ne courbe pas les Chines face aux néocolons. Pour les Africains, les Sud-Américains, les Moyen-Orientaux, c'est un comportement assez aberrant et totalement non constructif. Ce qui fait que c'est leur crédibilité qui est sérieusement remise en question actuellement en Afrique. Le choix est plutôt entre leurs mains. Si ces instances veulent se mettre à dos les populations, tout comme l'Occident l'a fait, il est clair qu'elles seront dans de beaux draps. Les alliances militaires intra-africaines prennent de plus en plus forme. Ce phénomène d'alliance militaire apparaît de plus en plus sur le continent africain. On le voit notamment dans le Sahel, dans les pays de la côte du Golfe de Guinée au niveau naval, mais également et d'une manière assez surprenante, car cachée, en Afrique centrale. En RDC, depuis l'arrivée du président Tshisekedi, on a pu constater de nombreux coups de pression et de chantage de la part des États-Unis et même de la France, qui voulaient interférer donc dans les affaires de l'Est de la RDC, comme à leur habitude. Cette interférence est toujours la même, la lutte contre les groupes armés et les terroristes. Seulement, outre le fait que l'ONU, Washington et Paris se sont dit qu'ils pourraient transformer l'Est de la RDC en un nouveau Sahel ou une nouvelle Syrie, les pays africains de la zone se sont quant à eux mobilisés de leur côté pour réellement mettre un terme aux problèmes sécuritaires. Les militaires congolais et ougandais se sont alliés et ont lancé une offensive assez réussie contre les terroristes ADF. Maintenant, c'est des soldats burundais qui ont également pris part aux événements. Les organisations de la société civile congolaise et les autorités locales ont confirmé la présence de militaires de l'armée burundaise depuis décembre dans la région des hauts plateaux de l'est de la RDC. Les forces burundaises sont entrées dans le groupement de l'Emirat depuis le 19 décembre dernier. Ils ont arpenté les plateaux qui surplombent le territoire d'Uvira. Ils étaient près de 400 militaires. Ils sont partis combattre les rebelles du Red Tabara et autres groupes, a déclaré Muogo, le chef du groupement l'Emirat, relevant donc du territoire d'Uvira dans la province du Sud Kivu. Le plus surprenant, visiblement au grand dam des Occidentaux, c'est que personne n'était au courant de ces événements. Évidemment, il est clair que si les alliances militaires intra-africaines et leurs opérations contre les groupes terroristes devaient se savoir, il est clair que cela diminuerait de son efficacité. Ils sont là, mais nos autorités ne nous disent rien. Elles doivent nous dire la vérité sur la présence de cette force étrangère s'ils ont des accords avec le Burundi pour des opérations chez nous, a déclaré Malenga, le rapporteur de la société civile d'Uvira. La société civile affirme en outre avoir alerté l'armée congolaise dès que les troupes burundaises sont entrées en RDC, mais 10 jours après, aucune réaction officielle. Le groupe rebelle, comme Red Tabara, a affirmé donc dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux avoir affronté effectivement dimanche dernier les forces de défense nationale du Burundi et les Ibonerakour, donc les jeunes du parti au pouvoir au Burundi, le Conseil national de défense et de la démocratie, force pour la défense de la démocratie. Ce groupe est considéré comme le plus actif des groupes rebelles burundais, dont la base arrière est dans l'est de la RDC depuis une dizaine d'années. Il revendique régulièrement des attaques au Burundi. Pour les autorités congolaises, déjà donc soupçonnées, entre guillemets, par la société civile d'avoir autorisé l'entrée des troupes burundaises sur base d'un accord secret avec Gitega. En décembre, le président Félix Tshisekedi a autorisé le déploiement des soldats burundais pour les opérations conjointes contre les rebelles des forces démocratiques auteurs de plusieurs massacres des civils ayant fait des milliers de morts depuis 2014 dans le territoire de Beni, situé dans la province du Nord Kivu, et depuis 2019 dans celle de l'Ituri. Mais est-ce réellement la société civile qui est mécontente, ou c'est d'autres acteurs extracontinentaux qui ne s'attendaient pas à ce qu'une telle alliance militaire se mette en place ? Dernièrement, donc, la MONUSCO a renouvelé son mandat encore pour 1 an malgré l'opposition des habitants des régions de l'Est de la RDC. L'instance a toutefois changé sa stratégie en se retirant de certaines zones et en se redéployant ailleurs, non pas pour mieux s'occuper de la sécurité des Congolais, comme elle le prétend toujours, mais bien parce que ce sont les Congolais qui ont réussi à chasser la MONUSCO de leur région. Les Congolais ne veulent plus voir des militaires étrangers dans leur pays, car tous les Africains, dans tous les coins du continent africain d'ailleurs, ont très bien compris qu'un déploiement de militaires occidentaux, que ce soit les Américains, les Français, la MONUSCO ou peu importe qui, la situation ne va certainement pas s'améliorer, mais au contraire. Les pays d'Afrique se rallient pour justement éradiquer ces groupes de rebelles qui servent de moyens de pression aux Occidentaux pour faire plier les pays africains et les obliger à suivre à la lettre leurs directives. Le cas du Sénégal par exemple avec les rebelles en Casamance, l'Éthiopie aussi avec les rebelles du TPLF, la RDC, l'Ouganda et le Burundi ont lancé également une offensive contre ces rebelles donc, qui sont purement et simplement à la solde des Occidentaux afin de réduire leur marge de manœuvre et enfin sécuriser leur pays et se concentrer sur leur développement. En 2021, le gouvernement ghanéen avait annoncé une hausse de 4% des salaires de base des fonctionnaires. Cependant, cette mesure avait été jugée insuffisante dans un contexte marqué par une hausse des prix à la consommation. Les fonctionnaires et agents de l'État ghanéen vont voir leur salaire augmenter de 7% dès la fin du mois de janvier 2022. L'annonce a été faite cette semaine par le ministre de l'Emploi et des Relations professionnelles, cité par plusieurs médias locaux. Cette hausse vient répondre aux plaintes des travailleurs du secteur public face à l'insuffisance de leurs revenus et les difficultés économiques actuelles. Le gouvernement avait promis une augmentation de 4% en 2021, mais ce pourcentage avait été décrié par les fonctionnaires. Cette hausse intervient dans un contexte socio-économique tendu, marqué par une hausse des prix à la consommation dans plusieurs pays ouest-africains. D'après les autorités ghanéennes, l'inflation a grimpé à 12,2% au mois de novembre 2021, soit son niveau le plus élevé donc depuis août 2021. En Afrique, le secteur des oranges a été l'un des plus dynamiques sur la dernière décennie. Le continent abrite plusieurs poids lourds mondiaux, aussi bien dans la production que sur le plan des exportations. La campagne agrumicole 2021-2022 s'annonce positive pour les principaux exportateurs d'oranges vers l'Union européenne. Dans sa dernière note, l'USDA indique que la zone devrait enregistrer une production d'oranges de 6,1 millions de tonnes, soit 6% de moins que l'année précédente, et un niveau en dessous de la moyenne décennale. Ceci en raison des baisses de récoltes prévues en Italie, en Grèce et au Portugal, ce déficit annoncé dans la région qui est ordinairement une importatrice nette de cette catégorie d'agrumes, peut offrir de nombreuses opportunités commerciales pour le continent africain. En effet, les quatre premières destinations d'importation d'oranges de l'Union européenne sont actuellement l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc et le Zimbabwe. Si globalement, cette situation devrait encore renforcer la place de l'Afrique dans l'approvisionnement du marché européen, il faut noter toutefois que ces différents pays n'aborderont pas ces perspectives de la même manière. Ainsi, pour le Maroc, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, la campagne 2021-2022 pourrait surtout être celle d'un rattrapage des contre-performances enregistrées un an plus tôt. Dans la foulée de la baisse des importations globales d'oranges de l'Union européenne sur fond d'abondance de l'offre en 2020-2021, la nation arc-en-ciel avait vu ses envois de fruits se contracter fortement de 43% d'une année sur l'autre, alors que le royaume chérifien enregistrait une baisse de 22%. Par ailleurs, le Zimbabwe a vu ses exportations baisser à environ 26 000 tonnes contre 27 500 un an plus tôt. Pour sa part, l'Égypte devrait continuer à consolider sa présence au niveau de l'Union européenne durant l'exercice 2021-2022. Et dans le pays où la dite saison commerciale a été lancée le 15 décembre dernier, les exportations d'oranges ont enchaîné une troisième hausse consécutive en 2020-2021, atteignant environ 310 000 tonnes. Pour rappel, l'Union européenne est le deuxième consommateur mondial d'oranges fraîches et le premier importateur de fruits, donc avec en 2020-2021 des achats de 860 000 tonnes de l'agrumes pour une valeur de 660 millions de dollars. En Afrique du Sud, si la société Eskom est le principal fournisseur d'électricité, elle cohabite avec d'autres distributeurs donc d'électricité liés aux municipalités. L'électricité fournie par ces dernières est néanmoins plus onéreuse en raison des taxes finançant les budgets municipaux. La South African Local Government Association, donc organisation regroupant l'ensemble des municipalités d'Afrique du Sud, a soumis à la Haute Cour de Pretoria une demande pour obtenir le droit exclusif de distribuer l'électricité sous leur donc juridiction. Elle conteste ainsi le droit du fournisseur national Eskom de vendre l'électricité aux citoyens sans passer par des accords de prestation de services avec les autorités locales. Selon la SALGA, la cohabitation de l'Eskom et des services municipaux de distribution de l'électricité constitue un obstacle dans la collecte des recettes publiques. Le fournisseur national propose en effet un tarif plus compétitif aux consommateurs car ledit tarif n'est pas soumis aux taxes imposées par chaque municipalité sur l'électricité. Pour l'année 2019 seulement, le manque à gagner occasionné s'élèverait à 162 milliards de rands, donc plus de 10 milliards de dollars d'après la SALGA. En 2020, la part des produits algériens dans les importations mauritaniennes en provenance des pays africains représentait environ 20% selon le directeur général du commerce extérieur de l'Algérie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, au cours du Conseil des ministres du dimanche 2 janvier, a instruit le ministre des Transports en vue de l'ouverture prochaine d'une ligne maritime entre l'Algérie et la Mauritanie. Dans un communiqué, la présidence algérienne a indiqué néanmoins qu'il s'agit d'une voie maritime qui raccordera l'Algérie au port de Nouakchott. La décision, motivée par la volonté de densifier les échanges commerciaux entre les deux pays, fait suite à la visite d'État effectuée du 27 au 29 décembre par le président mauritanien dans l'Algérie voisine. Visite au cours de laquelle un important accord dans le domaine des transports relatif à la construction d'un réseau routier de 775 km a été signé. Les deux pays, en dépit de leur voisinage, n'ont pas encore une pleine jouissance de l'atout naturel que constitue cette proximité géographique, alors qu'ils regorgent chacun de potentiels miniers, agro-pastoraux et industriels utiles l'un à l'autre. Avec une partie des volumes échangés entre les deux pays qui doit d'abord transiter par des ports européens.